France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Peu de temps après le concours d'opéra, Charles Garnier fut appelé aux Tuileries pour montrer ses plans à l'empereur et à l'impératrice. L'impératrice, de son côté, était mécontente que l'opéra ne fût pas construit par Viollet-le-Duc. Aussi arriva-t-elle d'un air raide et peu satisfait, tandis que l'empereur discrètement disait « C'est bien, c'est beau, c'est très beau ». L'empereur souriait silencieusement dans sa moustache. Enfin, s'approchant de Charles, il lui dit tout bas « Ne vous tourmentez pas, elle n'y entend rien du tout. »
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Bonjour. Nous n'avons guère accoutumé ici de célébrer des anniversaires. D'autres s'en chargent, et fort bien, sur notre antenne. Mais toute règle souffre des exceptions, et le 150e anniversaire de l'inauguration du Palais Garnier à Paris, le 5 janvier 1875, à l'aube de la Troisième République, offre une occasion bienvenue. Celle de restituer, dans la longue durée, la place qu'a conquise l'opéra depuis l'Ancien Régime dans la vie de la nation. En termes culturels, naturellement, mais nous ne prétendrons pas ici rivaliser avec la compétence de nos amis de France Musique. Il va s'agir surtout, ce matin, de nous interroger sur le rôle de l'État, de régime en régime, dans la mise à disposition du public d'un art majeur et en vérité sans pareil. De son influence, bien sûr, dans l'acte architectural destiné à donner un cadre digne d'eux aux opéras et aux ballets, selon quel processus de décision et de financement. De son intervention aussi dans la programmation des œuvres, avec, à proximité, la tentation d'une censure, ou tout au moins d'une intervention qui ne serait pas mue seulement par un souci artistique, mais par d'autres forces dont le chauvinisme ne fut pas toujours absent. Sans compter une préoccupation sociale qui est constante en démocratie, celle de l'accès dans les salles d'un public populaire et non pas exclusivement d'une élite fortunée qui profiterait seule des lourdes subventions accordées à la marche de l'opéra, cette activité si coûteuse. Mathias Auclair, mon invité, dirige le département de la musique à la Bibliothèque nationale de France et il a publié des travaux précieux sur l'opéra Garnier. Le bâtiment qui va s'imposer majestueusement au centre de notre sujet. En sa compagnie, nous ne nous priverons certainement pas du plaisir de faire surgir, avec Gaston Leroux, le célèbre fantôme qui continue, à coup sûr, de hanter ces lieux. Et d'abord, la voix de Charles Garnier, l'architecte qui a conçu et réalisé le palais qui porte son nom. C'est un texte de 1871, lu ici par Jean Gilibert, dans l'heure de culture française le 12 décembre 1961.
Le cadre joue un grand rôle. Quand une salle est belle, de noble aspect, d'agréable confort et de couleurs somptueuses, comme est par exemple celle de l'Opéra de Paris, les spectateurs qui y pénètrent subissent une espèce d'impression morale à laquelle ils ne peuvent se soustraire complètement. Ils se sentent entourés, environnés, par une sorte d'atmosphère élégante qui influe sur leurs pensées, sur leur caractère, même sur leurs paroles et sur leur maintien. Ils sentent instinctivement qu'une certaine dignité de circonstance et que trop de laisser aller serait inconvenant. Ce sentiment de réserve, cette direction élevée donnée à l'esprit, qui agit spontanément et se font sentir dès l'instant où l'on pénètre dans la salle, vous prédispose immédiatement à l'audition de grandes œuvres. L'influence du milieu vous domine et tout ce qui vous en ferait brusquement sortir risquerait fort d'être malvenu et mal accueilli. On ne peut jamais se désintéresser complètement de ce qui vous entoure. Les plaisirs ou les peines que l'on ressent sont excités ou amoindris suivant le caractère de l'endroit où l'on se trouve. Oui, le théâtre étant non seulement enseignement mais encore luxe et plaisir, doit exiger de l'édifice qui lui est destiné non seulement grandeur et noblesse, mais encore luxe, charme et richesse. Cela peut s'affirmer sans crainte d'être démenti.
Mathias Auclair, bonjour.
Bonjour.
Vous le retrouvez là, votre architecte, votre palais Garnier, tel que nous allons l'évoquer ce matin?
Ah, c'est un des aspects du bâtiment. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Garnier, dans d'autres écrits, notamment son célèbre Nouvel Opéra, c'était le nom du palais Garnier avant que ce théâtre porte le nom de son architecte, Garnier parle de la salle de manière différente. C'est-à-dire que là, on voit qu'il en parle de manière finalement assez classique pour nous, c'est-à-dire comme un lieu, le sein des saints, de l'endroit où le public reçoit le spectacle. Alors que, à d'autres moments, il dit d'abord qu'une salle d'opéra, c'est très difficile à réaliser parce qu'il y a beaucoup de contraintes sur cette salle.
Ça, c'est une manière de se mettre lui-même en valeur. Il a affronté avec succès cette difficulté même.
Tout à fait. Mais en même temps, il dit que la salle est moins riche et peut-être moins spectaculaire que d'autres espaces de son théâtre parce que justement, il a voulu magnifier le public. Et c'est une constante chez Garnier. Peut-être plus que magnifier le spectacle, il magnifie la société. Et donc, quand il parle de sa salle, il parle des belles dames en belles robes avec leurs beaux diamants, dont les chairs comme les parures doivent être magnifiées par la couleur de la salle, notamment ce rouge opéra qu'il a choisi, qui a évidemment une connotation politique, hein, c'est le rouge de l'Empire, mais qui a aussi une vertu particulière pour faire miroiter les diamants et aussi donner une belle couleur aux carnations.
Vous évoquez le rouge, peut-être faut-il dire d'où vous nous parlez, puisque avant de diriger le département de la musique de la Bibliothèque nationale de France, vous avez été l'adjoint du directeur de la Bibliothèque de l'Opéra, qui est une dépendance de la BNF, ce qui vous donne une autorité spécifique pour en parler. Et vous aviez contribué à cette très belle exposition des années 2000 sur le rouge, précisément organisée avec le concours précieux de Christian Lacroix.
Tout à fait, c'était... À un moment, on réfléchissait à des cartes blanches données aux artistes pour les expositions de la Bibliothèque de l'Opéra.
Carte blanche pour parler du rouge?
Exactement. Et mon directeur, qui s'appelait Pierre Vidal, avait une relation amicale avec Christian Lacroix. Il s'était entendu sur cette thématique du rouge qui, comme vous le savez, est identitaire du style de Christian Lacroix, mais qui est aussi identitaire de l'opéra. Donc comme ça, l'identité Christian Lacroix rejoignait l'identité opéra. Et il se trouvait que par ailleurs, moi j'avais une relation amicale avec Michel Pastoureau. Et donc, c'est vrai que traiter de la couleur rouge, ça m'intéressait au plus haut point. Et on a fait cette très belle exposition à la Bibliothèque nationale de France. Et c'est vrai que ça a été un très grand moment de la vie de la Bibliothèque de l'Opéra que cette exposition. Et je crois qu'elle est restée dans la mémoire de tous. Et ça nous a permis aussi de travailler justement sur cette symbolique du rouge à l'Opéra. À la fois couleur presque essentielle de l'opéra, alors que, comme vous le savez, l'opéra fut bleu sous la monarchie, avant de devenir rouge sous l'Empire et sous la République.
Ce chromatisme de notre sujet est important, et vous faites bien de citer Michel Pastoureau, que nous avons reçu souvent à ce micro, et notamment pour parler du rouge. L'émission est en ligne.
Voilà, donc c'est effectivement les couleurs qui sont signifiantes à plus d'un titre, et Michel Pastoureau l'a évidemment montré avec beaucoup de maîtrise et de manière tout à fait évidente.
Ça nous conduit à l'inauguration de l'Opéra Garnier en 1875.
Au moment où l'Opéra Garnier est inauguré, ce bâtiment a cette particularité, puisque vous avez mis l'exposition sous le signe finalement de l'État, l'inauguration est éminemment politique. En fait, l'Opéra Garnier est un bâtiment voulu par le Second Empire, que la République a regardé avec un peu de circonspection, pour ne pas dire plus, à la suite de la chute de Napoléon III, et finalement, après l'incendie de la salle de Pelletier, qui était la salle de l'opéra, a choisi de faire terminer ce bâtiment pour qu'il abrite l'opéra. Et du coup, la République a revendiqué ce bâtiment comme un bâtiment républicain et comme un bâtiment qui incarnait la fierté de la nation qui, après sa défaite face à la Prusse, avait été capable de se relever et même de produire un bâtiment fastueux, riche, qui montrait une prospérité retrouvée. Alors,
certains n'en ont pas moins critiqué ces couleurs dont nous venons de parler, en parlant même de pâtisserie.
Tout à fait. D'abord parce que le style semblait un peu étrange. Dès l'exposition universelle de 1867, lors de laquelle...
On a pu voir la façade.
On a pu voir la façade. Et c'est à partir de ce moment que commencent à fuser à la fois les éloges très marqués en faveur de Garnier, mais aussi un certain nombre de critiques, et notamment cette critique de dressoir ou de pâtisserie, de pièces montées, d'assemblage de friandises, enfin tout ce qu'on peut imaginer a été dit sur le luxe de cette façade. Et c'est certain que à la suite de la défaite de Sedan, il y a en plus eu une dimension économique, c'est qu'on s'est dit, Garnier jette l'argent par les fenêtres. C'est-à-dire, au moment où nous, on doit payer de l'argent à la Prusse, Garnier met de l'or sur son bâtiment. Et donc, il y a eu toute une justification de Garnier dans son ouvrage Le Nouvel Opéra pour dire qu'il n'avait pas du tout dilapidé l'argent de la nation, mais que cet argent avait été bien placé.
Dans son camp, on cite volontiers Napoléon, qui disait, à propos de l'opéra, il faut jeter de l'argent par les fenêtres pour qu'il rentre par les portes.
Tout à fait, c'est Napoléon Ier qui le disait. Napoléon Ier était finalement un grand amateur d'opéra. En tout cas, il avait bien perçu sa dimension éminemment politique. On disait que il regardait de manière très précise la programmation de l'opéra depuis les terrains de campagne. Il a tenu l'opéra d'une main de fer et il a beaucoup veillé sur l'opéra parce qu'il considérait que l'opéra était un élément éminemment politique, de propagande aussi. Et il y a un certain nombre d'opéras qui mettaient en majesté, de manière plus ou moins explicite, la figure de l'empereur.
Trajan incarne à un moment donné...
Le triomphe de Trajan, qui est sans doute l'œuvre la plus emblématique de cet asservissement, finalement, de l'opéra au pouvoir impérial.
Puisque vous parlez d'asservissement, cela nous conduit à évoquer, même brièvement, la préhistoire, c'est-à-dire les liens sous l'Ancien Régime entre l'opéra, lui-même en mutation, entre France et Italie, entre des théâtres différents, les mutations, l'évolution de ces relations avec le roi.
Alors effectivement, le genre opéra est introduit en France sous la minorité de Louis XIV, mais c'est Louis XIV devenu majeur qui finalement crée l'institution opéra. Et cette création est sans doute à mettre en relation avec le fait que le roi ne veut plus danser après avoir dansé dans un certain nombre de palais de cour et souhaite professionnaliser les chanteurs, les danseurs au sein d'une institution qui va être finalement créée deux fois par Louis XIV. Une première fois en 1669 sous le nom d'Académie d'Opéra au profit du librettiste Pierre Perrin, et puis ensuite refondé au profit de Jean-Baptiste Lully, surintendant de la musique du roi, sous le nom d'Académie royale de musique. Alors ce terme d'académie est extrêmement trompeur. D'abord, quand on parle d'académie de musique, personne ne voit l'opéra. En fait, c'est vraiment opéra et académie de musique désignent une seule et même institution. Et l'Académie de musique ou l'Opéra n'a jamais été une académie au sens de l'Académie française ou de l'Académie royale de peinture, mais bien un théâtre.
Si on évoque les liens entre la gloire du roi Soleil et l'Opéra, on ne peut pas se priver de citer l'argument que Pierre Perrin, que vous venez d'évoquer, a avancé, c'est-à-dire un argument de nationalisme, en fait. Dans sa dédicace de son projet au ministre du roi, il écrit que et on ne doit pas souffrir qu'une nation partout ailleurs victorieuse soit vaincue par les étrangers, il s'agit de l'Italie en fait, en la connaissance de ces deux beaux-arts, la poésie et la musique, en laquelle il faut confesser qu'il y a quelques années que les Italiens nous surpassent de bien loin. Cet aspect de patriotisme et parfois de chauvinisme va courir tout au long de l'histoire de l'opéra que nous évoquons ce matin.
Tout à fait, et d'ailleurs l'opéra est vraiment une institution nationale. Il faut se souvenir que jusqu'en 1972, donc en plein milieu du XXe siècle, on chante les ouvrages en français, à quelques rares exceptions. Quand on invite des troupes étrangères au XXe siècle, ils chantent dans la langue d'origine. De temps en temps, quand on invite des vedettes, la vedette chante dans sa langue et le reste de la distribution chante en français.
Donc, on traduit Rossini, on traduit Wagner.
Tout est traduit, ça fait partie...
Et Verdi aussi.
C'est un passage obligé, c'est-à-dire que quand vous souhaitez donner un ouvrage à l'Opéra de Paris, et beaucoup de compositeurs étrangers le souhaiteront, vous devez forcément faire traduire votre livret en français, et vous devez aussi ajouter un acte de ballet.
Que se passe-t-il au XVIIIe siècle, quant à l'histoire de l'opéra et de ses relations avec les pouvoirs publics ?
Alors, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que, à la différence d'aujourd'hui, c'est que l'opéra n'est pas un théâtre subventionné. C'est-à-dire que, dès l'origine, le pouvoir a comme volonté de créer une structure qui est autosuffisante commercialement, financièrement. Et comment se fait cette autosuffisance financière ? D'abord par la recette que produit la billetterie, et ensuite par le privilège. C'est-à-dire que l'opéra a l'exclusivité des opéras, donc des ouvrages intégralement chantés en français et d'ailleurs aussi en langue étrangère.
De façon de lutter aussi contre l'invasion des Italiens.
Tout à fait.
Mais ce qui frappe dans le même sens, c'est qu'on va même prendre de l'argent dans les caisses des autres théâtres, imaginons aujourd'hui.
Et surtout, l'opéra va vendre son privilège. C'est-à-dire qu'il va permettre à d'autres théâtres parisiens de donner de l'opéra, mais contre le paiement d'un droit. Et c'est comme ça que l'opéra va avoir des recettes. Et puis par ailleurs, la monarchie se laisse quand même la possibilité d'aider l'opéra en mettant à sa disposition un théâtre gratuitement, c'est le cas de la salle du Palais Royal, ou en payant les décors, les costumes, les répétitions, quand les ouvrages sont donnés pour la première fois à la cour. Alors le grand changement du XVIIIe siècle, c'est Marie-Antoinette et Louis XVI qui l'introduisent. C'est la reprise en main par le pouvoir royal en direct de la gestion de l'opéra en 1780. Ça ne va pas durer très très longtemps puisque arrive la Révolution.
Marie-Antoinette n'aimait pas la musique française et voulait naturellement introduire la musique allemande.
Marie-Antoinette avait une fidélité avec ses professeurs de Vienne. Donc avec son professeur de musique qui était Gluck et avec son professeur de danse qui était Nevers. Et donc, c'est vrai que Marie-Antoinette, d'abord, a une intervention assez énergique sur la vie de l'opéra, et a beaucoup fait pour faire venir à Paris, introduire dans le répertoire les ouvrages de Gluck.
Qui est un habile homme, un bon diplomate.
Qui est un habile homme, et qui est en plus un très bon compositeur et un très bon dramaturge. C'est-à-dire que la grande réforme de la tragédie lyrique, après Lully et après Rameau, c'est le fruit de Gluck, et d'ailleurs on écoute encore toujours avec plaisir un certain nombre d'ouvrages de Gluck.
Il y a un va-et-vient avec la ville, l'État charge la ville de l'opéra, c'est une façon de se débarrasser du fardeau financier.
De toute façon, la valse-hésitation de l'État dans l'exploitation de l'opéra, c'est une constante de l'histoire de l'Opéra de Paris jusqu'en 1939. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de se dire que finalement, la structure actuelle de l'Opéra de Paris, celle d'un établissement public, qui pourrait être celle qu'il aurait dû avoir de tout temps, en fait, elle est extrêmement récente et elle ne date que des années 30 du siècle dernier.
Quels sont les effets de la Révolution française sur l'histoire de l'opéra que nous évoquons ce matin ? Fin du privilège, tout de même, la loi Le Chapelier.
Tout à fait, la loi du privilège, mais le privilège revient assez vite. La vraie fin du privilège, en fait, c'est Napoléon III. C'est la fin des théâtres privilégiés. Mais effectivement, il y a cette fin du privilège, en tout cas transitoire. Il y a aussi la Révolution fait comme la monarchie, peut-être même un peu plus, c'est-à-dire que elle met l'opéra au service de la Révolution et de la nation, avec un certain nombre de pièces qui glorifient les victoires révolutionnaires, le régime révolutionnaire.
À partir de 93 surtout.
Tout à fait. Donc il y a un certain nombre de pièces sans doute extrêmement spectaculaires, avec des bruits de fusils et des bruits de canons. On ne les entend plus du tout aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour, ça vaudrait la peine de les entendre une fois à titre de curiosité.
Cette histoire connaît un nouveau chapitre au moment du romantisme, au moment du 19e siècle, où décidément l'opéra devient le lieu où il faut être quand on appartient à l'élite et où notamment se déploie le dialogue entre Paris et la province, ce qui apparaît très clairement dans Les splendeurs et misères des courtisanes de Balzac, ouvrage fameux, un livre qui a été publié en 1847. Écoutez cette archive radiophonique qui remonte à février 1963.
Charles Vanel, Micheline Prel, Serge Reggiani, Daniel Delorme, Jacques Duménil, Rosy Wart, Pierre Bertin, Marie Marquet, Henri Crémieux et Jean-Pierre Cassel dans Lucien de Rubempré. 115 épisodes de René Brest et Henri Wetzmann d'après Honoré de Balzac, réalisé par Marcel Sicard.
Alors, monsieur de Rubempré, la salle de l'opéra répond-elle à votre attente ?
Oh, madame, je suis émerveillé ! Mais qu'ont donc toutes ces dames à braquer leurs lorgnettes vers votre loge ?
S'il nous vient des visites à l'entracte, nous saurons peut-être à quoi nous devons cet honneur.
Je soupçonne fort ma vieille robe de velours et ma mise en goût moisine d'amuser les parisiennes.
Non, ma chère, ce n'est pas vous qui les intriguez.
Tiens ! Regardez là-bas, dans une loge. On dirait monsieur du Châtelet. Il est donc à Paris ?
Dans la loge de madame de Sérisy.
N'est-ce pas elle qui a eu tant d'aventures et qui est néanmoins reçue partout ?
Une chose inouïe, ma chère, à la fois explicable et inexpliquée. Ce monsieur qui est venu la saluer et qui me paraît fort bien tourné, est-il donc le lion d'Angoulême ?
Pas seulement d'Angoulême. Monsieur le baron du Châtelet a beaucoup fait parler de lui. Il fut le compagnon du général de Montriveau en Égypte.
Oh, voyez donc qui occupe maintenant sa loge. Avec l'illusion d'en acquérir les grâces, l'esprit et le succès. Madame de Nucingen, femme d'un homme d'affaires, un brocanteur en grand, qui s'impose à Paris par sa fortune et peu scrupuleux, paraît-il, sur les moyens de la croître. Le jeune homme à ses côtés est le petit de Rastignac. On les voit partout ensemble.
Je l'ai reconnu. Devant son élégance, on peut se demander comment font monsieur et madame de Rastignac, qui n'ont pas 1000 écus de rente, pour soutenir leur fils à Paris.
Vous arrivez de province, cela est évident.
Connaissez Mathias Auclair dans cet extrait, l'ambiance telle qu'elle était probablement celle de l'opéra dans ses années romantiques ?
À Paris, il y a deux théâtres d'opéra très en vue, évidemment l'opéra, mais aussi les Italiens, très appréciés par les romantiques et notamment par Balzac. Alors Balzac avait aussi ses habitudes à l'opéra. À un moment où l'opéra est exploité sous la forme d'une entreprise avec un directeur entrepreneur qui s'appelle le docteur Véron.
Qui a laissé des mémoires intéressants.
Qui a laissé des mémoires captivants, sans phare d'ailleurs sur la situation des danseuses ou sur les dangers que représente le fonctionnement du théâtre pour les machinistes, pour quelqu'un qui s'égarerait sur la scène et qui pourrait se faire assommer ou tuer par un boulon qui tombe du ciel. Véron, qui donc gère l'opéra comme une entreprise, a comme souhait de se fidéliser ses abonnés, qui sont les grands pourvoyeurs de fonds du théâtre, et donc leur donne un certain nombre d'avantages, notamment la possibilité pour eux de fréquenter le foyer de la danse, d'où toutes les histoires sulfureuses autour des relations entre les abonnés et les danseurs et danseuses. Et évidemment, l'idée, c'est aussi que l'opéra soit confortable pour ses abonnés et notamment soit comme une sorte de salon pour eux. D'où cette sociabilité qui se développe plus encore que sous l'Ancien Régime, sous la période romantique, et où finalement l'opéra devient l'endroit où il faut être pour discuter affaires, se montrer.
Les lorgnettes commencent de prendre une grande importance.
Discuter politique, discuter affaires. Et d'ailleurs, quand on entend l'archive qui va être diffusée, vous voyez, on voit que les gens s'affairent avant le début du spectacle, tout d'un coup, il y a les trois coups et tout le monde se tait. À la période romantique, c'est pas comme ça que ça se passe. Le lustre, d'abord, reste allumé. Donc, il faut imaginer une salle éclairée. Le public le plus huppé ne vient pas au début du spectacle. Et pourquoi il ne vient pas au début du spectacle ? C'est parce qu'il doit montrer qu'il a des choses à faire. Quelqu'un qui vient avant le spectacle, c'est un raté, c'est quelqu'un qui...
Un rustre.
Et c'est quelqu'un qui n'a qu'une seule chose à faire, c'est aller au spectacle, et qui n'a pas d'autres affaires en ville. Et pendant le spectacle, les conversations se poursuivent. Et c'est pour ça qu'il y a ces arrière-loges dans lesquelles un certain nombre de personnalités se retirent quelques minutes, plus longtemps, et reviennent sur le devant de la loge quand telle cantatrice chante son grand aria ou quand le ballet se produit, ce qui est toujours un moment un peu de focalisation des abonnés qui veulent voir comment leur danseuse est mise en avant par la direction du théâtre ou par le chorégraphe du théâtre.
Cette sociabilité comporte, vous venez de le dire, un côté un peu sulfureux, c'est-à-dire qu'un certain nombre de bourgeois viennent guérir des relations avec des danseuses en particulier. Je vais vous faire entendre une chanson qui vous amusera peut-être, de Suzy Solidor, qui remonte à 1948 et qui évoque un petit rat de l'opéra.
Un petit rat de l'opéra trottinait à tout petit pas sur l'avenue de l'opéra. Une victoria jaune ses draps, tiré par un cheval à poil ras, soudain lui emboîta le pas. Il y avait dedans un vieux galant qui retira son panama, lui murmura des mots tout bas. Le petit rat ne répondit pas, pressa le pas puis s'engouffra dans l'opéra. Un, deux, trois, chassés et croisés, mollets cambrés, mademoiselle. Un, deux, trois, partez du pied gauche ou du pied droit. Et tous les jours, le petit rat, deux pas par-ci, trois pas par-là, dans le foyer de l'opéra, dansait le ballet de Sylvia. Le soir, voilà que la Victoria, avec son cheval à poil ras, l'attendait devant l'opéra. Le vieux galant était dedans, et dès qu'il vit le petit rat, re-retira son panama. Le petit rat ne répondit pas, baissa la tête, accéléra, toujours suivi de la Victoria. Mais le lendemain, le surlendemain, la Victoria se retrouva sur son chemin. Un, deux, trois, chassés et croisés, mollets cambrés, mademoiselle. Un, deux, trois, partez du pied gauche ou du pied droit. Et tous les jours, le petit rat, deux pas par-ci, trois pas par-là, fuyait l'homme à la Victoria, ce vieux poussa quel scélérat. Cela dura jusqu'au jour où le vieux monsieur fort en courroux bondit hors de la Victoria, prit par le bras le petit rat, en lui disant « J'en ai assez de courir comme un dératé, j'en ai assez, assez de jouer au jeu du chat et de la souris avec un rat de votre gabarit, mon fils loulou. » Est fou de vous, c'est non, c'est oui, le voulez-vous comme mari. Un, deux, trois, chassés et croisés, mollets cambrés, mademoiselle. Un, deux, trois, mais cette fois-ci partez du pied droit. 8 jours après tout l'opéra, danseurs, chanteurs, etc. Portez la traîne du petit rat, marche nuptiale, Ave Maria. Voilà, 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 voilà comment se maria notre petit rat de l'opéra, voilà.
À côté de ce chapitre coquin, Mathias Auclair, de l'histoire que nous évoquons ce matin, celle de l'opéra, et en particulier de l'opéra Garnier, il y a un volet plus sombre, je pense en particulier aux incendies et au crime. Mais parlons d'abord des incendies. Il faut le rappeler que l'éclairage se fondait sur des bougies largement et que donc ces ensembles architecturaux étaient toujours menacés.
Oui, c'était le destin d'une salle d'opéra de brûler. Et d'ailleurs, les incendies étaient des moments spectaculaires dans la ville. Il y a notamment de très très beaux tableaux de Hubert Robert qui immortalisent l'incendie de la deuxième salle du Palais Royal.
Le peintre spécialiste des ruines.
Tout à fait. Qui est aussi spécialiste des incendies, qui les aimait beaucoup. Il a vraiment donné de très beaux tableaux de cet incendie qui est un moment très important dans l'architecture des salles de l'opéra, parce que c'est la première fois qu'on se pose vraiment la question d'un bâtiment propre pour l'opéra. Jusqu'à présent, l'opéra a occupé des salles de jeu de paume, rive gauche, ou des salles à l'intérieur de palais royaux ou princiers, palais royal, ensuite Tuileries. Et à ce moment-là, en 1781, La question est celle d'un bâtiment d'opéra qui structure la ville. Et c'est cette idée que concrétisera, bien des années après, le Palais Garnier.
Il y a deux incendies fameux en particulier.
L'incendie de la deuxième salle du Palais Royal, et puis l'autre grand incendie qui marque Paris et les esprits, c'est l'incendie de la salle Le Pelletier, cette salle provisoire construite après l'assassinat du duc de Berry, salle Montansier, sur cette salle qui se trouvait sur l'actuel Square Louvois. Donc à la suite de cette assassinat, le pouvoir décide de faire détruire la salle de l'opéra, qui se trouvait donc Square Louvois, et de la faire reconstruire un peu plus loin, rue Le Pelletier, avec quelques aménagements supplémentaires. Et cette salle provisoire a duré.
Mais flambe aussi, finalement.
Et finalement, brûle au bon moment, au moment où il faut qu'elle flambe, parce qu'il faut terminer le Palais Garnier, qui est un peu en rade depuis la chute du régime impérial.
Garnier avait un alibi, on ne l'a pas vu passer avec une allumette à la main.
Certains, je crois, l'ont dit.
Vraiment?
Mais je ne pense pas qu'il l'ait fait. Mais en tout cas, c'est un moment extrêmement important, décisif, dans l'histoire de l'opéra Garnier.
Vous évoquez l'assassinat, c'est un autre aspect de l'histoire de l'opéra que nous évoquons ce matin. S'il y a quelque chose d'assez sombre, comme si ce décor à plusieurs reprises avait été celui d'assassinat ou de tentative d'assassinat. C'est vrai pour Napoléon Ier, qui est encore Bonaparte, en décembre 1800.
L'attentat de la rue Saint-Nicaise.
Oui, quand il se rend à l'opéra. C'est vrai pour le duc de Berry. Aussi, qui est l'héritier du trône, le fils du futur Charles X, qui est assassiné par Louvel le 13 février 1820. Et puis Napoléon III échappe également à une machine infernale en janvier 1858 devant le péristyle de l'opéra.
Tout à fait. Dit attentat d'Orsini, à qui...
Mais c'était Orsini, de fait, un Italien.
Tout à fait. Enfin, Orsini et trois complices, et c'est ce qui décide Napoléon III à lancer la construction d'un nouvel opéra à Paris, le Palais Garnier.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Mathias ou Claire, parlez-nous de ce qu'a été la programmation de ces théâtres. Vous disiez qu'on ne jouait qu'en français pendant très longtemps. Racontez-nous davantage sur les flux et les reflux de l'opéra français, de l'opéra étranger.
Alors l'opéra de Paris a produit, grâce à ses librettistes et à ses compositeurs, un certain nombre de modèles, en fait, ou de formes lyriques. La tragédie lyrique, inventée par Lully, ensuite la pastorale héroïque, l'opéra-ballet, toute une série d'œuvres moins austères, plus galantes aussi que la tragédie lyrique pour faire venir à l'opéra un public qui commençait à être un peu lassé par le genre héroïque. Et puis, au XIXe siècle, émerge progressivement un genre qui va être vraiment le propre de l'Opéra de Paris pendant une cinquantaine d'années, et qui va d'ailleurs influencer toute une série de compositeurs européens, même si certains d'ailleurs diront que c'est un genre totalement périmé, à commencer par Wagner. En fait, la plupart des compositeurs européens du XIXe siècle seront influencés par ce genre qui est celui du grand opéra. Alors le grand opéra, c'est vraiment la forme pour Paris, c'est-à-dire un opéra très ample, souvent en cinq actes, avec toujours un ballet, plutôt au milieu de l'ouvrage pour que les abonnés qui donc ne viennent pas au début de l'ouvrage puissent quand même admirer leur danseuse, avec des effets orchestraux et de chœur extrêmement spectaculaires. Le grand opéra joue sur les contrastes, et puis aussi des décors, des costumes, éventuellement des lumières ou des effets d'éclairage, eux aussi très spectaculaires, qui font que certains diront qu'à Paris, on regarde l'opéra plus qu'on ne l'écoute.
C'est le temps de l'émergence parallèle de Wagner et de Verdi?
L'émergence de Verdi et de Wagner se passe de manière légèrement décalée, c'est-à-dire que le grand opéra donne ses premiers grands chefs-d'œuvre au début de la période romantique,
avec
la Muette de Portici, avec le Guillaume Tell de Rossini, avec la Juive d'Halévy.
Rossini, rôle essentiel. Stendhal fait la vie, décrit la vie de Rossini.
Tout à fait. Rossini a un rôle essentiel à la fois pour la revitalisation de l'opéra italien à Paris et ensuite pour donner à l'opéra de Paris un nouveau répertoire et notamment il contribue de manière très singulière et de manière très significative à la formation du genre du nouvel opéra avec son Guillaume Tell. Et l'opéra qui symbolise peut-être plus que tous les autres cette forme, c'est Robert le Diable de Meyerbeer.
Quelle date ?
1831. Et Verdi, comme Wagner, vont être extrêmement influencés par ce genre. Verdi va d'ailleurs écrire pour l'opéra plusieurs opéras dans le style du grand opéra, qu'il s'agisse des Vêpres siciliennes ou de son Don Carlos. Wagner, lui, comme vous le savez, ne va pas écrire d'opéra pour Paris, mais en revanche va acclimater son Tannhäuser créé à Dresde en 1855 pour Paris, donc pour la salle de Pelletier, en 1861. D'ailleurs, c'est la forme de Paris qui est toujours chantée et jouée aujourd'hui la plupart du temps, avec un texte en allemand, mais avec bien cette forme définie par Wagner, avec notamment le ballet de la Bacchanale au début. Et l'opéra connaîtra le fiasco et Wagner ne sera plus joué à Paris pendant une trentaine d'années avant de revenir en majesté après sa mort à partir des années 1890 et jusqu'à la Première Guerre mondiale.
Mathias Auclair, avant de revenir au bâtiment lui-même, revenir à l'opéra Garnier, il faut que nous disions un mot de l'auteur lui-même, Charles Garnier, son origine, son histoire.
Alors Charles Garnier...
Comment émerge-t-il parmi 170 projets différents à la fin du Second Empire ?
Donc Garnier, au moment où il réussit le concours, est un jeune architecte. Il est né en 1825. Il n'était pas forcément prédisposé à gagner les grands concours, ou en tout cas des grandes commandes d'État. Il venait d'un milieu relativement modeste. Son père est carrossier,
sa mère
est dentelière. Mais il suit quand même la voie royale, c'est-à-dire que il rentre à l'école des Beaux-Arts après avoir fréquenté notamment l'atelier d'Hippolyte Lebas.
Et puis le Grand Prix de Rome.
Et puis il obtient le Grand Prix de Rome, ce qui le conduit...
Séjour à la Villa Médicis.
Exactement. Il en profite aussi pour aller voir un peu ce qui se passe en Grèce. Et finalement, il rentre à Paris... avec de petites charges. Et là, il concourt pour l'opéra et il gagne le concours. Alors, la grande question, c'est pourquoi a-t-il gagné le concours ? Les explications que je livre sont les suivantes. D'abord, la plupart des grands architectes sont hors-jeu puisqu'ils sont dans le jury du concours. Donc, ça permet aux concurrents d'avoir... que les plus grands architectes ne soient pas en jeu. Ensuite, les membres du jury sont essentiellement les membres du Conseil des bâtiments civils et les membres de l'Académie des Beaux-Arts. Quasiment tous issus de l'École des Beaux-Arts et quasiment tous titulaires du Grand Prix de Rome. Donc leur instinct, c'est de choisir un Grand Prix de Rome. Lorsqu'on regarde la manière dont le jury a finalement sélectionné les candidats, c'est que la plupart des candidats, la quasi-totalité des candidats qui passent le premier tour sont titulaires du Grand Prix de Rome. On cite souvent le cas de Viollet-le-Duc, qui est dans l'entourage de l'impératrice, qui a obtenu du couple impérial...
Le préféré d'Eugénie de Montijo, de l'impératrice.
Le fait que le pouvoir impérial organise un concours et ne désigne pas un architecte, et finalement, il n'est pas sélectionné. Or, Viollet-le-Duc n'est pas titulaire du Grand Prix de Rome. Donc, indépendamment du fait que son projet n'est peut-être pas le meilleur, il a aussi ce handicap de ne pas avoir ce prix.
Il lui reste Notre-Dame, ce qui n'est pas sans importance.
Tout à fait. Dont il avait gagné la restauration une vingtaine d'années avant. Le concours de la restauration, une vingtaine d'années avant.
Alors, il me semble qu'au point où nous en sommes de notre conversation, Mathias Auclair, il faut redonner la parole à Charles Garnier. Voici un texte qui remonte à 1869, lu par Jean Gilibert en décembre 1961.
Je vois partout, dans tous les siècles, dans tous les pays, d'innombrables monuments bien plus surchargés de sculptures ou bien plus ornés de marbre que la façade de l'opéra, et chacun s'extasie sur les pierres dentelées de ceux-ci et sur les matériaux précieux de ceux-là. Je soupçonne que le bruit de cette richesse outrecuidante s'est répandu lorsqu'on a su que j'employais des marbres et quelques dorures. Comment des marbres? Comment des ors? Là où nous ne voyons ordinairement que de la pierre. Mais cet architecte est un gaspilleur qui veut mettre sous nos yeux tous les trésors de Golconde. Il est vrai que j'ai dépensé près de 800 francs pour dorer la façade. Cette prodigalité devait être vertement tensée. Enfin, où le luxe doit se manifester avec le plus d'abondance, c'est dans le théâtre. Je ne parle pas, bien entendu, des théâtres forains ou des petites salles secondaires, je parle des grands théâtres monumentaux tels que les salles d'opéra des villes capitales. L'opéra est non seulement le temple du plaisir, c'est aussi et surtout le temple de l'art et d'un art particulier qui parle aux yeux, aux oreilles, au cœur et aux passions. Il faut que cette exubérance de sensations se produise dans un milieu favorable et que cette abondance d'impressions qui jaillit du drame lyrique soit encore complétée par l'impression d'abondance qui jaillit de l'architecture. Mais entendons-nous bien. Je dis richesse et non pas prodigalité. Je dis luxe et non pas dévergondage. Quelques roses partent une jeune fille. Un boisseau de dahlia ensevelirait la pauvrette. N'allez pas trop loin et ne dépassez pas le but. Mais convenez seulement que si l'architecture peut devenir vivante et colorée, c'est dans un opéra surtout que la carrière est ouverte.
Mathias Auclair, voilà un plaidoyer. Il vous paraît efficace?
Il correspond tout à fait à ce que veut faire Garnier, c'est-à-dire un bâtiment montre par la richesse de son extérieur le caractère à la fois festif et riche du genre. Et des spectacles qui y sont donnés.
C'est là qu'on trouve les controverses autour des statues de Carpeaux, en particulier la danse, puisqu'elles sont nues.
La décoration du palais Garnier est tenue d'une main de fer par Garnier. Il a confié la plupart des décors, que ce soit les sculptures, les peintures, à des amis, en tout cas des condisciples de la villa ou de l'école des beaux-arts. Carpeaux faisait partie de ses intimes, entre guillemets. Il se trouve que Garnier n'aimait pas tellement la sculpture qu'avait réalisée Carpeaux, moins en raison de ce qui lui a été reproché par ailleurs, c'est-à-dire le côté légèrement égrillard du groupe.
Il lui vaut de recevoir de l'encre rouge.
Tout à fait, une tache d'encre. D'ailleurs, la photo est reproduite dans le livre que je viens de publier. Mais surtout, Garnier trouve que l'œuvre est trop personnelle et que du coup, ça dépare un peu son bâtiment parce qu'il préfère quand même que la décoration soit toujours légèrement en retrait par rapport à l'architecture, si vous voulez. Garnier a une vision total de l'architecture dialoguant avec la peinture et avec la sculpture, évidemment. Mais l'architecture doit rester première. Donc, il préfère un décorateur un peu en deçà qu'un grand artiste qui va faire qu'on va regarder d'abord le décor avant de regarder l'architecture.
On peut signaler aussi qu'il obtient de Haussmann que l'avenue de l'Opéra, qui conduit vers sa grande œuvre, ne comporte pas d'arbres.
De toute façon, Garnier a toujours veillé à ce que son bâtiment soit le bâtiment le plus remarquable du quartier. Donc quand il voit que ce qui est aujourd'hui le Grand Hôtel monte plus haut que ne l'autorisait le plan d'urbanisme, il demande à l'empereur de surélever son bâtiment, d'où la présence de cet attique. Alors il se trouve que Garnier trouvera que cet attique n'était pas forcément très heureux, mais dit-il,
attique, vous voulez dire une sorte de grenier.
Attique, exactement, en tout cas, cet étage au-dessus de la colonne, de la colonnade du premier étage, qui permet de donner l'impression que la façade est un peu plus haute, et ce qui permet notamment à ce que la façade soit légèrement plus haute que celle du Grand Hôtel.
Désormais, ce bâtiment s'installe, quelles qu'aient été les critiques, celles de Goncourt ou de Debussy éventuellement, il s'installe dans le paysage parisien et aujourd'hui il a 1 million de visiteurs chaque année, nous dit-on, avec 300 000 spectateurs. C'est une idée que nous pouvons avoir de cette dimension. Mais c'est en même temps un bâtiment qui fascine, un bâtiment qui provoque un certain nombre de fantasmes, dont l'expression la plus parlante et la plus célèbre est celle de Gaston Leroux, le fantôme de l'opéra. Je voudrais vous faire entendre un extrait de cette œuvre et après nous pourrons la commenter.
L'opéra continuait de bruire de sa vie souterraine. Puis un jour, il y eut un grand cri, un long cri inhumain, venu des entrailles même de la grande maison et qui résonna d'étage en étage, jusqu'à la grande salle sous la coupole et au-delà de la statue dorée de l'Apollon qui domine Paris. Un cri d'épouvante ou de douleur. Tous ceux qui l'entendirent se bouchèrent les oreilles et voulurent aussitôt l'avoir oublié. Seule, Violetta, qui descendait le curieux escalier en colimaçon qui va de la fosse d'orchestre aux caves et de là au-dessous, sut retenir toute l'horreur de ce cri, mais elle se garda d'en parler. Parvenue très bas dans les dessous, elle avait seulement vu une ombre hésiter au milieu du carrefour voûté sous la rotonde des abonnés. Ce n'est que lorsque la jeune fille fut définitivement remontée dans les étages que l'ombre se détacha du mur et traversa le couloir. « Viens !» murmura l'ombre qui bougeait. Elle portait une cape noire, un habit, un plastron et son visage. « Prends entre les mains la partition de Pandora et déchiffre-la avec moi, note après note, mesure après mesure. » Et elle saisit la partition. « Chante ! Ce n'est pas de la gorge que vient le chant, tu le sais, ni même de la poitrine, mais de plus bas encore, là, au creux du ventre. » Clara chantait, et son maître de musique n'était autre que l'homme en noir, celui qu'on appelait le fantôme.
Le livre de Gaston Leroux a d'abord été publié en feuilleton, c'était la mode de l'époque, dans Le Gaulois en 1910, et a connu ensuite une fortune exceptionnelle, avec ce personnage du méchant fantôme, Eric, avec un K, qui dispute cette chanteuse au gentil Raoul de Chagny, qui va réussir à la délivrer. C'est à la fois un feuilleton traditionnel, et en même temps, il y a une évocation de ses profondeurs, un lac souterrain qui en réalité est la citerne de l'opéra, non ?
Alors comme vous l'avez dit, le bâtiment a beaucoup impressionné le public, au point que certains ont dit que les premiers spectateurs des spectacles de l'opéra venaient d'abord pour le Palais Garnier avant de venir pour ce qui était donné sur sa scène. Mais c'est Gaston Leroux qui crée le mythe du Palais Garnier, et c'est un mythe qui est toujours extrêmement vivace aujourd'hui.
On cherche toujours le fantôme.
Et il y a plein de petites histoires qui ont été montées en épingle et qui participent de ce mythe du Palais Garnier.
Nous devons à Martine Kahan un livre tout récent sur cet épisode significatif. Martine Kahan, qui a été elle-même directrice de la bibliothèque de l'opéra dont je parlais tout à l'heure. Un nombre incroyable d'opérettes, de bandes dessinées, de films.
Et de films.
On voit Audrey Hepburn, à un moment donné, dans le film fameux de Donen sur le grand escalier de l'opéra.
Funny Face, tout à fait. Effectivement, ce qui concourt aussi à la popularité du fantôme de l'opéra, c'est que très vite, le cinéma, et notamment le cinéma hollywoodien, s'empare de cette thématique et finalement donne un rayonnement mondial au Palais Garnier, qui d'ailleurs, pour ce film, est en fait reconstitué en studio.
L'histoire, Mathias Auclat, l'histoire de ce Palais Garnier de l'opéra, à quoi nous consacrons cette émission, se développe ensuite sous la Troisième République d'une manière originale, avec toujours une certaine ambivalence quant au rapport entre l'État et l'opéra, parce que l'opéra a toujours besoin de subventions. Et puis il y a un moment qui est un moment clé, qui est celui où Chagall, à l'initiative d'André Malraux, que nous allons entendre, est chargé de repeindre le plafond de l'opéra. Cet événement est restitué dans l'archive que je vais vous faire entendre. Écoutez donc ce reportage radiophonique à l'occasion de l'inauguration de ce plafond qui remonte au 24 septembre 1964. Malraux est ministre d'État chargé des affaires culturelles.
C'est toujours le même problème. Il y a un certain nombre de gens qui trouvaient mauvais quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Il était indispensable que dans un endroit où le plafond avait disparu, on puisse retrouver l'immense qualité poétique qui est celle de la musique et qui a été celle de tous les grands plafonds italiens. Chagall avait dit, en somme, je ne ferai pas quelque chose comme Tiepolo. Eh bien, il a fait parfaitement quelque chose d'aussi bien que Tiepolo et il a apporté la fête de Paris avec tout ce qu'il apportait de si loin, comme l'autre avait apporté la fête de Venise. Les gens qui étaient ici, qui viennent d'applaudir, étaient arrivés sans préjugés. Ils ont reconnu la poésie, ils ont applaudi. Eh bien, madame, tant mieux.
Marc Chagall, vous remerciez maintenant tous vos amis qui viennent vous saluer après avoir applaudi ce plafond.
Je suis ébloui par devant l'applaudissement.
Est-ce que vous étiez inquiet?
Beaucoup, beaucoup inquiet. Mais je ne peux rien dire parce que je suis très mouillé, je suis encore enrhumé. Tout le monde m'a embrassé encore, il y a des rouges sur mes lèvres, je crois.
Comment vous avez pensé ce plafond?
Je n'ai pas dormi une nuit, deux jours, et voilà, j'ai pensé. Je ne sais pas quoi penser, il faut regarder seulement.
Monsieur Georges Auric va nous donner son impression maintenant.
Bien, mon impression de ce soir, et d'ailleurs, tout simplement, celle que j'ai eue il y a plusieurs jours, quand j'ai pu voir pour la première fois ce plafond de Marc Chagall. Pour moi, c'est une chose particulièrement émouvante parce que quand j'avais 15 ans, quand j'avais 16 ans, j'admirais déjà Chagall, qui était mon aîné, mais que je percevais à Montparnasse et qu'il n'était bien loin à ce moment-là d'imaginer qu'un soir, je le retrouverais dans une salle comme celle de l'Opéra. Ce soir, je suis très fier pour l'Opéra et je suis profondément heureux que Chagall ait accepté de faire don à notre salle, à notre pays, d'une aussi magnifique réussite.
Chagall a dit un jour qu'il voulait offrir à l'opéra un bouquet de rêves. Et celui qui s'exprime après, c'est Georges Auric. Il faut que nous évoquions tout de même un certain nombre des dirigeants qui, en particulier, se sont préoccupés, entre autres, d'une certaine ouverture populaire de l'opéra, ce qui a été un souci constant, de fait, depuis la Troisième République.
En fait, depuis la Révolution. C'est-à-dire que c'est les révolutionnaires qui introduisent l'idée qu'il faut démocratiser l'opéra. Et c'est effectivement relancé sous la Troisième République, avec notamment les matinées gratuites, notamment pour le 14 juillet, et le souci constant d'ouvrir ce genre d'élite, entre guillemets, au plus grand nombre. Et quelques années après l'inauguration du plafond de Chagall, il y a le fameux rapport Villard en 1968, puis le rapport Bloch-Lenné.
Bloch-Lenné, qui est un haut fonctionnaire très notoire, qui incarne cette génération de personnages qui ont refait la France après 1945.
Et qui réfléchissent justement à cette question de la démocratisation de l'opéra, et est-ce que cette démocratisation peut se faire au sein du Palais Garnier. Entre-temps, il y avait aussi eu Liebermann qui avait notamment réfléchi à la démocratisation que pouvait apporter la captation et la diffusion audiovisuelle des spectacles. Dans les années 70, et même en fait avant, il y avait un certain nombre de spectacles dans les années 50 qui avaient marqué les belles heures de la radio-télévision française.
Avec des disques en particulier répandus.
Et des spectacles filmés et diffusés à la télévision. C'était le cas notamment des Indes Galantes. Et Liebermann avait aussi lancé le format de l'opéra filmé avec le très célèbre Don Giovanni de Lozé.
Oui, d'ailleurs, la maison de Radio France, il faut le dire ici, à ce micro, a accueilli plusieurs des enregistrements de ces opéras prestigieux.
Et donc, de la réflexion de Villard et de la réflexion de Bloch-Lenné, est né finalement l'Opéra Bastille, opéra qui devait être un opéra populaire, avec une programmation singulière.
Ça a été le souci des responsables successifs, de Pierre Berger, de Hugues Gall, et jusqu'à Stéphane Lissner.
Et aujourd'hui, Alexander Neff, évidemment, tout directeur de l'Opéra de Paris se pose la question de la démocratisation du genre opéra et de la fréquentation des salles de l'Opéra de Paris par un public qui n'est pas uniquement un public connaisseur et argenté.
C'est un objectif qui est toujours visé, parfois difficile à atteindre, mais qui reste dans l'esprit de tous les responsables successifs.
Tout à fait, et chacun invente un certain nombre de formules pour redynamiser le public de l'opéra. Alors c'était les avant-premières créées par Stéphane Lissner avec des billets à 10 euros pour les moins de 26 ans et d'autres idées pour permettre ainsi une meilleure diffusion des spectacles de l'opéra auprès d'un public élargi.
Un effort qui a été et sera celui de tous les responsables de l'opéra, et nous le saluons à l'avance en dépit des difficultés qu'il incarne. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À vous.
Merci Mathias Auclair de nous avoir conduits au long de cette histoire qui, heureusement, est loin d'être achevée avec le brio de la programmation contemporaine. Vous avez publié tout récemment aux éditions Gourcuff Gradenigo un ouvrage consacré à l'opéra Garnier, en reproduisant en particulier des dessins qui étaient jusqu'ici restés enfouis.
Ces dessins étaient conservés par la bibliothèque de l'opéra, mais avaient été extrêmement rarement montrés et encore plus rarement reproduits et aussi bien reproduits. Donc c'est vrai que tous ces dessins ne sont pas totalement inédits, mais en tout cas ils ont été très peu vus et beaucoup d'entre eux n'ont jamais été montrés, édités, publiés.
Et puis antérieurement, vous avez donné un ouvrage plus synthétique consacré à l'Opéra de Paris, c'est le titre, 350 ans d'histoire, paru chez le même éditeur, Gourcuff Gradenigo. Nous parlions du plafond de Chagall, encore un livre de votre plume sous votre signature qui lui est consacré, le plafond de Chagall, l'Opéra Garnier. Vous en décrivez la genèse ?
Tout à fait, à la fois la genèse...
Et la portée.
Qui est très difficile à décrire parce qu'en fait, il y a très peu de sources. Et surtout, je tente de le décrire et d'expliquer la signification qui se cache derrière chaque élément décoratif de ce plafond.
Martine Kahn, qui a dirigé la bibliothèque de l'Opéra, qui dépend de la BNF, a donné, nous parlions de Gaston Leroux, un livre très précieux qui vient de paraître au Classique Garnier et qui s'intitule « Enquête sur le fantôme de l'opéra » de Gaston Leroux. Puis vous pourrez trouver en ligne les références précises à l'œuvre de Gérard Fontaine qui a publié sur le même sujet deux livres très utiles. Et puis je tiens à vous faire deux recommandations supplémentaires. D'abord, de vous procurer le livre de Marie-Vonne de Saint-Pulgent qui vient de paraître dans la bibliothèque illustrée des histoires de Gallimard, consacrée au thème des musiciens en relation avec le pouvoir en France, de Lully à Boulez. Et j'ajoute enfin que les Archives nationales vont nous proposer dans quelques jours une exposition consacrée à la musique et à la République, de la Révolution au Front populaire. Ne manquez pas de vous y rendre. Et tandis que nous entendons un extrait du célébrissime Faust de Gounod, l'air des bijoux, dont la gloire s'est encore accrue grâce à la Castafiore de Tintin et d'Hergé, je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Yvan Charby à la prise de son, Célian Guillemard à la discothèque, et pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, Nathalie Christ.